VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du vendredi 28 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Eric Manilakidze.
Nous commençons par les titres.
Début demain des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Emmanuel Jultap sera avec vous dans le journal de la CAN.
Au Burkina Faso, première allocution à la nation du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Le Danemark va rapatrier ses soldats du Mali alors que le temps monte entre Paris et Bamako.
Ouverture prochaine du principal poste frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, annonce Kigali. Et puis au Tchad, la junte reporte la date du dialogue national pour des élections démocratiques.
Le président américain Joe Biden répète à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il répondrait résolument à une invasion russe contre son pays.
Voilà pour les titres, le journal maintenant.
Tout de suite, de Yaoundé au Cameroun, le journal de la CAN de Emmanuel Jultap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Deux matchs à élimination directe sont programmés ce samedi à Douala et à Garoua pour désigner qui du Cameroun, de la Gambie, du Burkina Faso ou de la Tunisie va jouer les demi-finales. Présentation des forces en présence avec Ahmed Insi.
Le Cameroun pays aura l'honneur et le privilège d'ouvrir le bal en affrontant la surprenante équipe de la Gambie pour ce match. Il faut dire que les Lions indomptables iront avec la faveur des pronostics face à une équipe de la Gambie qui joue pour la première fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre sent fort en un combat entre David et Goliath car les Lions indomptables ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises avec 5 victoires et 2 échecs seulement. Le Cameroun a participé par ailleurs à 7 phases finales de la Coupe du Monde, un record en Afrique, et en a atteint les quarts de finale une fois, c'était en 90. Il a été également sacré champion olympique en 2000. Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, amené par un excellent Vincent Aboubakar, maître réalisateur avec 6 buts, est en train de réussir sa CAN sans tambour ni trompette. Mais les Lions indomptables auront en face d'eux une équipe de la Gambie, certes néophyte, mais qui est déjà en train dans l'histoire. D'ailleurs, la Gambie, pour un coup d'essai, a réussi un coup de maître en se qualifiant de fort belle manière au nez et à la barbe des équipes comme la Guinée. Les Scorpions gambiens sont toujours invaincus dans cette compétition. Ensuite, les amateurs du ballon rond auront droit à un duel entre les étalons du Burkina et les aigles de Qatar dans un match qui semble équilibré, mais ballotage favorable à cette équipe du Burkina qui monte en puissance face à une formation tunisienne requinquée par sa belle prestation face au Nigeria.
Pour le milieu de terrain de la formation burkinabé Adama Guira, il faudra s'attendre à un match difficile car l'adversaire a rehaussé son niveau de jeu. Il l'a confié à Kader Traoré.
C'est pas la même Tunisie des phases de poule que nous observons actuellement. Ils sont une équipe vraiment tactique. Je crois qu'ils ont gagné le Nigeria tactiquement. Ils sont restés regroupés. Ils ont fait un très bon match. Et on s'attend aussi à un match très très difficile le samedi. Et maintenant, c'est comme des finales. Hein. Donc, du coup, on le sait très bien. On n'a pas droit à l'erreur.
La situation politique du Burkina Faso est durement perçue par les joueurs, mais ceux-ci veulent se surpasser pour faire plaisir à leur peuple. Issoufou Dao, vice-capitaine des étalons.
C'est un coup dur pour nous, et voilà tout ce qui se passe au pays. Actuellement, la balle est dans notre camp, et on va essayer d'aller loin, le plus loin possible pour ramener un peu de joie dans le cœur de Burkinabé. J'espère vraiment que la paix règne au Burkina Faso.
Issoufou Dao, au micro de Kader Traoré Mamadou. Adversaire du Cameroun, la Gambie, par l'entremise de sa fédération, a annoncé hier que les 27 joueurs de l'équipe nationale ainsi que le staff ont été testés négatifs au Covid-19 48 heures avant le face-à-face en demi-finale au stade de Japoma à Douala. Direction Libreville pour le coup de sifflet du jour avec Jules Valentin Ngoué qui examine la distribution des cartes de football en Afrique au regard des affiches des quarts de finale.
Bonjour, c'est le moment de réactualiser l'évolution des rapports de force entre les différentes régions du continent et tirer des leçons. Pour le moment, on se rend compte que depuis 2006 et les 9 dernières éditions, l'Afrique de l'Ouest, déjà pléthoriquement représentée dans les phases finales de la CAN, n'a cessé de dominer le rapport de force dès la dernière ligne droite des tournois, avec régulièrement la moitié du casting à partir des quarts de finale. Le nombre important des pays de la zone Afrique de l'Ouest au sein de la Confédération, ainsi que la réussite d'une dynamique politique de formation explique certainement cette domination. Mais pour ce rendez-vous camerounais, il ne reste en course que le Sénégal, le Burkina Faso et la Gambie. La probabilité de perdre un représentant en plus en quart de finale restant forte. La faute à l'Afrique du Nord et surtout à l'Afrique centrale, cette dernière n'ayant perdu en route qu'un seul représentant sur trois en huitième de finale, le commando équato-guinéen probablement surmotivé étant passé par là. Les matchs de samedi et de dimanche entre le Burkina Faso et la Tunisie et surtout les affrontements directs entre d'une part le Cameroun et la Gambie et d'autre part le Sénégal et la Guinée équatoriale vont confirmer ou infirmer cette analyse. Mais trêve de supputation et place au jeu. Le verdict final ne saurait tarder. À lundi.
Les Comores, sortis de la compétition et coupe des amendes et sanctions infligées par le Conseil de discipline de la Confédération africaine de football. La Fédération comorienne de football va payer une amende de $17,000, soit 10 millions de francs CFA, pour avoir prétendument fait preuve d'un comportement irresponsable à plusieurs reprises, notamment une violation grave des protocoles COVID-19 et l'accès forcé au vestiaire lors du match contre le Cameroun. L'entraîneur des gardiens, Patrice Padovani, est suspendu pour les trois prochains matchs des Comores. Il est accusé d'avoir proféré des insultes à l'encontre des officiels de la CAF. C'est la fin du journal de la CAN. Amédine Sy, Kader Traoré, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, première adresse du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du pays, c'était dans une allocution hier à la Nation. Au cœur du discours de M. Damiba, la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
L'insécurité que vit le pays depuis des années a été son premier point.
Rarement dans son histoire, notre pays a été autant confronté à l'adversité.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouvel homme fort du pays, en tenue militaire, est apparu à la télévision nationale pour sa première adresse hier à la Nation. Il a commencé par rendre hommage aux victimes du terrorisme.
Je voudrais me recueillir sur la mémoire des hommes et des femmes, civils comme militaires, dont le sang a mouillé le sol de notre patrie dans cette lutte que nous menons de façon acharnée.
La lutte contre le terrorisme semble donc être au premier plan.
Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats.
Ainsi, il a appelé à l'union sacrée des Burkinabés pour vaincre ce fléau. Les leaders de la CDAO se réunissent aujourd'hui en sommet virtuel. Ils lancent un appel à la communauté internationale.
À accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement.
Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Danemark a annoncé hier le rapatriement de sa centaine de soldats déployés au Mali, comme l'exigeait la junte au pouvoir à Bamako. La France a dénoncé ce qu'elle a appelé des mesures irresponsables prises par un pouvoir illégitime. Mercredi, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition au Mali, a accusé la France de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux.
Au Tchad, le dialogue national en vue d'élections libres et démocratiques a été repoussé du 15 février au 10 mai 2022, un report qui pourrait retarder le retour à l'ordre constitutionnel et des civils au pouvoir, Mohamed Oumfa.
La tenue du dialogue national inclusif est reportée pour le 10 mai 2022, a d'abord écrit la présidence de la République sur sa page Facebook. Puis dans une vidéo, le premier ministre civil, Albert Pahimi Padake, a justifié ce report par le renvoi du pré-dialogue qui devait se tenir au Qatar fin janvier.
Il se trouve que dans les préparatifs, le pays hôte, constatant la dispersion des politico-militaires dans le monde, les questions logistiques, beaucoup d'entre eux n'ont pas de titre de voyage. Et toutes ces questions logistiques ont fait que le pays hôte, le Qatar notamment, a proposé de réunir les politico-militaires à Doha à partir du 27 février 2022.
L'organisation de ce pré-dialogue bute aussi sur l'absence de consensus entre les différents groupes armés. Il est pourtant une condition préalable pour les amener à la table du dialogue national inclusif. Le président de la transition, le général Mahamad Idriss Déby, avait laissé entendre en juin qu'il envisageait une prolongation de la transition de 18 mois si les Tchadiens ne parvenaient pas à s'entendre.
Le ministère rwandais des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui la réouverture le 31 janvier du principal poste frontière avec l'Ouganda, fermé depuis février 2019. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fils du président ougandais Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba. À Kigali, ce dernier et le président rwandais Paul Kagame ont affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales.
Un centre d'intervention d'urgence a été mis en place au Nigeria pour contenir une flambée des cas de fièvre de Lassa qui a fait 26 morts en 3 semaines, a annoncé l'Agence nationale de contrôle des maladies.
Rabat a lancé la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid qui doit démarrer sa production en juillet prochain et assurer l'autosuffisance vaccinale du Royaume, dont 3 vaccins couvrant plus de 70% des besoins du Royaume et plus de 60% de ceux de l'Afrique, selon l'agence de presse marocaine.
Le bilan de la tempête tropicale Ana, qui a frappé plusieurs pays d'Afrique australe, a grimpé à 77 morts et des dizaines de milliers d'habitants ont été forcés de quitter leur foyer, selon les derniers bilans donnés jeudi par les autorités de Madagascar, du Mozambique et du Malawi. La tempête a également touché le Zimbabwe, mais aucun mort n'a été signalé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a confirmé qu'il nommera pour la première fois une femme noire à la Cour suprême des États-Unis pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer. Nathalie Barge.
Lors d'une allocution à la Maison-Blanche, le président a déclaré que la personne qu'il nommera aura une expérience et une intégrité extraordinaires et qu'elle sera la première femme noire nommée à la Cour suprême. Monsieur Biden, qui avait fait cette promesse pendant sa campagne, a précisé qu'il rendra son choix public fin février. Un magistrat noir, Clarence Thomas, siège actuellement à la Cour suprême qui compte 9 membres nommés à vie. Sur les 115 juges ayant siégé en son sein depuis sa création, il n'y a eu que 5 femmes, dont une hispanique et 2 hommes noirs. Monsieur Biden a rendu hommage hier au juge Breyer, 83 ans, dont 28 à la Haute Cour de justice des États-Unis. Le magistrat progressiste qui quittera ses fonctions cet été a livré un plaidoyer pour l'état de droit. Notre pays est compliqué, a-t-il noté, ajoutant que ses 330 millions d'habitants aux origines, religions et opinions variées ont décidé de résoudre leurs principales différences par le droit.
Le président Biden a répété jeudi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué une assistance économique accrue selon un communiqué. Mais une intervention militaire américaine en Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN est exclue.
Les États-Unis ont enregistré en 2021 leur plus forte croissance depuis 1984, portée par les plans de relance massif et la vaccination. Mais 2022 est déjà menacée par Omicron, l'inflation et la paralysie du plan d'investissement de Joe Biden.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, suite au coup d'état militaire de lundi contre le président Roch Kabore, VOA Afrique donne ce matin la parole à certaines organisations de la société civile burkinabé qui réagissent au putsch et préviennent la junte maintenant au pouvoir qu'elle n'a pas droit à l'erreur. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Une page est tournée et une autre s'ouvre à Ouagadougou. Un nouveau pouvoir est arrivé par un coup d'État, comme si le pays renouait avec ses vieux démons du passé. Les organisations de la société civile sont divisées. Abraham Badolo est le président de l'Alliance pour la défense de la patrie.
C'est vraiment dommage pour notre démocratie. Vous savez, en tant que président d'une organisation de la société civile, nous ne cautionnons pas les prises de pouvoir par la force. Mais étant donné que c'est arrivé à notre niveau, nous ne pouvons que prendre acte et puis observer le comportement qui sera adopté par la junte militaire au pouvoir.
Serge Bayala, lui, est membre de l'organisation panafricaine. Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita.
Dans les sociétés civiles, les sociétés politiques et aussi dans les casernes, plus ou moins tout le monde était préparé à l'ambiance ou à l'éventualité d'un coup d'État. Je pense qu'il faut détaboutiser les coups d'État dans les contextes où ça arrive, pour permettre à nos nations de faire des bons qualitatifs.
Marcel Tankwano, président du mouvement M21.
Nous avons crié, nous avons pleuré, nous avons interpellé en tant qu'organisation de la société civile. Notre boulot, c'est de faire la veille citoyenne. Mais nous sommes allés jusqu'à un niveau où on ne nous écoutait pas. Au lieu de nous écouter, on nous a attrapés, mettre en prison. Aujourd'hui, nous regrettons, ça nous fait très mal qu'on recommence encore. Donc, vous voyez ce qui est arrivé, un coup d'État qui est arrivé, mieux vaut tard que jamais, sinon c'est un coup d'État salvateur.
La junte doit aller vite, elle n'a pas droit à l'erreur selon toutes ses organisations et les problèmes sécuritaires doivent être vite résolus. Serge Bayala.
C'est immédiatement et urgentement enregistrer des victoires sur les terrains de combat. Et je pense que c'est le premier agenda. S'il rate ce rendez-vous dans les 3 ou les 6 prochains mois au maximum à venir, qu'ils sachent que les mêmes causes qui les ont amenés à prendre les armes amèneront d'une manière ou d'une autre le peuple ou leurs propres collègues à progresser dans le coup d'État. Donc je pense qu'ils sont condamnés par le résultat.
Abraham Badolo.
Que la jeune travaille à assurer sa sécurité. D'abord que rien n'arrive à l'ancien président de Faso. Qu'il travaille à protéger les populations et leurs biens.
Marcel Tankwano.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à l'est, vous ne pouvez pas aller au nord, vous ne pouvez pas aller au centre-nord. Mais il y a des provinces et des régions qui sont occupées par les groupes armés. Donc pour nous, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de s'attaquer aux groupes armés d'abord, c'est de pouvoir donner la tuité, la stabilité à notre pays.
Pour l'heure, il n'y a aucune hostilité des populations vis-à-vis de la junte. Elle a même le soutien des habitants à Ouagadougou, comme à l'intérieur du pays. Mais le plus urgent reste à faire, avoir un calendrier pour la transition. La junte a eu des consultations hier et la CDAO tient un sommet virtuel aujourd'hui et va augmenter la pression sur les militaires au pouvoir. Lamine Traoré, Ouagadougou.
De leur côté, les Ivoiriens suivent avec beaucoup d'intérêt ce coup d'État au Burkina voisin et font des recommandations pour éviter les coups de force à répétition dans la région ouest-africaine. Reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays voisins dont les histoires s'entremêlent parfois jusqu'à se confondre. Pour exemple, Alassane Ouattara, pendant plusieurs années, n'avait pas pu se présenter à une élection présidentielle après une mise en cause de sa nationalité dans un débat empoisonné sur l'ivoirité. Tout comme l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, depuis sa chute du pouvoir, vit en Côte d'Ivoire et a même obtenu la nationalité ivoirienne. Après le coup de force à Ouaga, a défini par Abidjan rappelle qu'on ne peut pas gouverner un pays tout en oubliant les aspirations des populations.
Je pense que nos gouvernants doivent comprendre que nous ne sommes plus en 1960 encore. On ne peut pas diriger un pays en ne pensant pas aux aspirations de la population. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Mais il regrette la prise du pouvoir par les armes.
Ce n'est pas une bonne chose, mais hélas, c'est une solution parmi tant d'autres aussi.
Coudimon Pierre, ressortissant burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, condamne les bruits de bottes dans son pays d'origine.
Les coups d'État, ce ne sont pas des bons trucs pour un pays. Parce que souvent, il y a des coups d'État
créer des décès. Il y a certains trucs qui ne marchent pas pour le pays. Parce que si on fait un coup d'état que beaucoup de gens meurent, c'est pas bon.
Pour sa part, Elise Kedi, assis en famille sous un arbre, lui se gêne de savoir que c'est toujours en Afrique qu'il y a des coups d'état.
Je vois que à chaque fois, c'est en Afrique qu'on fait coup d'état, ça retarde le pays et puis ça donne la souffrance aux habitants. C'est pas bon pour l'Afrique. Il y avait eu coup d'état au Mali, en Guinée et puis au Burkina. Je n'encourage pas ça.
Paul Kouessi aussi condamne cette manière de prendre le pouvoir par les armes.
Ce n'est pas une bonne chose dans la sous-région. S'il y a un chef d'État qui est élu démocratiquement, laissez-le terminer son mandat. Et s'il y a quelque chose à faire, on le fera ensemble.
Et quelle est la meilleure solution pour éviter ces coups de force à répétition? Retrouvons M. Adé Philippe.
Il faut que les présidents apprennent à écouter le peuple, à travailler pour le peuple. Les populations souffrent, c'est d'autres qui mangent. Ça ne doit pas marcher comme ça.
Coutimant Pierre abonde dans le même sens.
Pour éviter ces coups d'État, c'est au niveau des présidents. Quand tu gouvernes un pays, c'est de prendre soin pour que les gens ne meurent pas inutilement dans le pays. Des bons dirigeants qui pensent aux autres.
Enfin, Dame Jeanne Aya lance un appel aux Ivoiriens et aux Burkinabés.
En tout cas, nous les Ivoiriens, avec les Burkinabés, on a la même chose. On avait vous, on vous soutient, mais pardonnez aussi, arrêtez pour avancer ensemble.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Mali, les militaires au pouvoir se heurtent à la communauté internationale pour savoir quand organiser des élections pour amener les civils au pouvoir. La France a retiré une partie de ses troupes. Les gouvernements européens envisagent de retirer leurs troupes participant à l'opération Takuba suite au recrutement éventuel de formateurs russes par Bamako. Comment ces tensions peuvent-elles affecter la sécurité du Mali? De Bamako, le point avec Annie Risenberg de la VOA et récit de Claire Morin-Gibourg.
Depuis les sanctions de la CEDEAO, la junte au pouvoir au Mali a adopté une position plus ferme. Cette semaine, le Mali a ordonné à un contingent danois récemment arrivé dans le cadre de la force européenne Takuba de quitter le pays. Le gouvernement a également accusé la France d'avoir violé l'espace aérien malien. Bamako a reconnu un certain degré de coopération avec des formateurs russes, mais nie toute coopération avec le groupe Wagner, une agence privée paramilitaire russe. Ornella Moderane est la responsable du programme Sahel à l'Institut d'études de sécurité de Bamako.
Tout cela n'a pas permis de stabiliser ou d'améliorer la situation. Au contraire, on assiste d'année en année à une aggravation du contexte sécuritaire. On a de plus en plus d'incidents violents et toujours énormément de victimes.
Ali Tonkara, le directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, à Bamako, affirme que sans les années d'intervention militaire, la situation actuelle pourrait être pire.
Je vois mal une fédération de la Russie donner des milliards pour des projets de réduction de tensions communautaires, notamment comment ramener tous ces jeunes qui avaient regagné le groupe radicaux violents, de reprendre la vie sociale.
Alioune Tine dirige le centre Africa Jom, un groupe de réflexion sur les questions de sécurité et droits de l'homme basé à Dakar au Sénégal.
Seulement maintenant, il faut réfléchir, après quand même des années d'intervention militaire, si effectivement la seule façon d'intervenir ou de répondre aux questions sécuritaires au Mali, c'est l'armée. Je pense que de ce point de vue-là, vraiment la réponse est non.
Pour Alioune Tine, il est essentiel que les solutions face à l'insécurité au Mali impliquent les jeunes et les femmes en particulier. Ces solutions doivent également se concentrer sur les questions de développement, pas seulement avoir plus d'armes et de forces militaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président Joe Biden va pouvoir nommer une femme noire à la Cour suprême pour la première fois de l'histoire de cette institution, après l'annonce du progressiste Stephen Breyer qu'il va quitter ses fonctions d'ici l'été. M. Biden avait promis de procéder à la nomination d'une femme noire pendant la campagne pour la présidentielle de 2020. Pour en parler, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefok, le professeur de langue à Howard University.
Alors, avec les juges de la Cour suprême, on ne peut pas toujours savoir s'il s'agit de pression ou pas. En tout cas, il semblerait que l'heure soit venue pour lui de prendre sa retraite, et c'est donc ce qu'il a fait.
Cela ne change pas quand même l'équilibre à la Cour suprême, avec toujours 6 conservateurs contre 3 progressistes. Mais pourquoi cette possibilité pour le président Joe Biden de nommer un juge est importante?
Alors ça, c'est extrêmement important parce que quand un parti obtient cette possibilité, il s'agit vraiment de s'engouffrer là-dedans. Sinon, le prochain président ou alors le président de l'autre parti à l'avenir aura justement cet avantage.
Alors, on peut parler donc de course contre la montre avant les élections de mi-mandat prévues en novembre. Le juge Breyer sera encore là jusqu'au mois de juin au moins.
Oui, alors c'est peut-être perçu comme une course contre la montre, mais il faut tout de même savoir qu'il est très important pour les progressistes d'avoir en place un juge.
Alors justement, le président Biden, lors de la campagne électorale, avait promis de nommer la première femme noire africaine-américaine à la Cour suprême. Et la Maison-Blanche a encore confirmé qu'il reste sur cette promesse. En quoi c'est important pour les États-Unis d'avoir la première femme africaine-américaine à la Cour suprême, si ça se confirme?
Si ça se confirme, ce serait une chose absolument positive, très importante, parce que les femmes noires américaines ont joué un rôle extrêmement important pour ce qui est de la justice dans ce pays. Elles sont d'abord en première ligne, parce que quand la justice n'est pas donnée dans la communauté noire, eh bien ce sont elles surtout qui se battent pour que justice soit faite. On pense par exemple à la mère de Emmett Till, par exemple. On pense à toutes ces femmes noires américaines qui ont dû se battre dans des situations où leurs proches, qu'il s'agisse de leur fils ou de leur mari, ont été ou assassinés ou tués par la police, par exemple. Donc les femmes noires sont à l'avant-garde, si vous voulez, quand il s'agit de se battre pour obtenir la justice.
C'était l'universitaire Marilyn Sefocle. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segudia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Lionel Gahima. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui,
sur VOA Afrique.